en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission en habit vert, je vous propose de revenir sur la riche et passionnante carrière du professeur Jean Dausset. Né en 1916 et décédé en juin 2009, le professeur Jean Dausset, membre de l'Académie des sciences, était un éminent immunologiste qui reçut le prix Nobel de médecine en 1980 pour ses découvertes. Des découvertes qui allèrent révolutionner le monde de l'immunologie. Il avait en effet mis la main sur le complexe majeur d'histocompatibilité, un terme un peu barbare pour dire qu'il avait trouvé comment gérer la compatibilité entre donneur et receveur pour une greffe d'organes. Car ce que l'on ne savait pas jusqu'à cette découverte, c'est que les globules blancs existent sous plusieurs catégories et que les uns ne sont pas compatibles avec les autres, entraînant à terme un rejet. Autre intuition à partir de laquelle a travaillé Jean Dausset, ces systèmes appelés HLA peuvent prédisposer à certaines maladies. Et inversement, d'autres systèmes peuvent lutter contre ces mêmes maladies. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous parlerons aussi de Jean Dausset, galeriste avec sa femme, Jean Dausset, politique qui travailla à la modernisation des hôpitaux avec Robert Debré et Jean Bernard, l'ouverture d'une banque de dons d'organes en 1969, France Transplant, bien sûr son prix Nobel en 1980 et la création de sa fondation en 1984, le Centre d'études du polymorphisme humain, le CEF, qui travaille intensément au décryptage du génome humain. Et pour aborder l'ensemble de ces thèmes, nous recevons le professeur Edgardo Carosella, correspondant de l'Académie des sciences, élève, confrère et ami de Jean Dausset. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Comme Jean Dausset à l'époque, vous exerciez à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, où vous êtes chef du service de recherche en hémato-immunologie, également directeur de recherche au commissariat d'énergie atomique, le CEA. Quelle a été votre première rencontre avec le professeur Dausset? Quels sont vos souvenirs le plus marquants avec lui?
J'ai commencé avec Jean Dausset en 1976, sur une invitation de M. Jean Bernard. C'est lui qui m'a fait venir à Paris et me demande de rejoindre l'équipe de Jean Dausset. Dausset, il ne me connaissait pas, mais il me reçoit très chaleureusement, comme c'était son habitude, car il y avait en général une grande différence vis-à-vis des étrangers. Il me mettait immédiatement en confiance, était très amical, je dirais, chose qui n'était pas très évidente à l'époque, car il y avait encore les grands patrons de médecine. Alors, ma carrière commence avec lui, en 1976, une carrière scientifique, mais aussi d'amitié et de complicité.
Et une carrière qui ne va jamais s'arrêter.
Il ne va jamais s'arrêter et que j'aurais souhaité encore qu'il ne s'arrête pas.
Nous allons donc revenir sur sa carrière, sur ses découvertes. Et à travers ses découvertes et sa carrière, vous nous donnerez les anecdotes, puisque comme vous, je le disais à l'instant, vous étiez aussi son ami. Donc j'imagine que vous avez partagé pas mal de choses ensemble. Revenons sur les débuts, sa destinée, sa carrière, qui commence en Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, je dirais que la Deuxième Guerre mondiale va bouleverser l'avenue un peu tracée de M. Dausset. Son activité comme transfuseur va orienter presque toute sa recherche après. Car il ne faut pas oublier que le père de M. Dausset, Henri Dausset, il était le fondateur de la physiothérapie et de la rhumatologie en France. Il était le chef de service de l'Hôtel Dieu, dont, en quelque sorte, un tout petit peu, son chemin était tracé. Mais alors, il va exercer son activité médicale pendant la guerre comme transfuseur. Tout naturellement, à la libération, il est affecté à Paris, au centre de transfusion sanguine de l'hôpital Saint-Antoine. Alors, dans ce centre, il va appliquer une technique assez novatrice qui avait mis au point M. Jean Bernard et Marcel Pessis, que c'était l'exsanguine transfusion. Ça consiste à changer le sang d'un individu. Il va appliquer cette technique au nouveau-né d'une part, la maladie de l'anémie hémolytique des nouveau-nés, et d'autre part,
aux adultes,
aux femmes qui s'arrivaient avec une septicémie suite à des avortements clandestins. Alors, il fallait quand même une vingtaine de donneurs pour échanger le sang de cette femme, mais il guérissait. Et là, je crois qu'il commence ces rapports formidables avec les donneurs du sang et Messier Dossé. C'était, comme il le disait, ma famille. Et jusqu'au dernier jour, Messier Dossé, y avait des mots pour ses donneurs de sang. C'est un rapport très très fort. Et à Saint-Antoine, il était capable de trouver ses 20 donneurs les matins comme l'après-midi.
Des donneurs qu'il avait appelés à travers des petites annonces dans le Figaro
ça, c'est
ou
plus
autre.
Tard. D'accord. Ça, c'est plus tard. Ça devient bien plus tard. Là, c'était des donneurs.
Bénévoles,
pour sauver,
bien sûr.
Bénévoles, bien entendu, toujours. Pour sauver ces femmes qui avaient attrapé une septicémie. Alors, il va bénéficier du plan Marshall, dont les internes pouvaient faire une année sabbatique
aux États-Unis.
Donc, il va se rendre au service d'hématologie du Children's Hospital, dont il va travailler pendant un an. Et dès son retour, il rejoint encore l'hôpital Saint-Antoine, les centres de transfusion. Mais cette fois-ci...
Avec une intuition.
Alors, cette fois-ci, il va s'en occuper des malades, s'intéresse aux malades ayant un nombre anormalement bas de globules blancs, c'est-à-dire les leucopénies. Non, les leucopénies. Pour l'instant, c'était les leucopénies. Et il va rencontrer Coombs. Coombs venait d'inventer ou de décrire plutôt un test qui porte son nom, permettant de déceler des anticorps fixés à la surface des globules rouges de certains malades atteints d'anémie. Alors, par analogie, il s'est dit, ben voilà, chez mes leucopéniques, je dois trouver les mêmes choses. Il va donc utiliser les mêmes procédés, mais hélas, en vain.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas car, dans un cas, c'était des auto-anticorps et dans l'autre cas, c'était des allo-anticorps. Alors, ils continuent à travailler et ils se disent, bon, probablement, il doit avoir des anticorps, mais ces anticorps proviennent des multiples transfusions que nous faisons aux malades. Il va prendre donc les sérums d'un de ces malades et il va les tester.
Sur un autre malade ?
Sur un donneur normal. Sur les leucocytes d'un autre, de son panel des donneurs volontaires. Et là, voilà, les miracles se prononcent. Comme dirait M. Chandorcé, il y a une agglutination. C'est sa publication Princeps, 1952. Alors là, imagine que de même qu'il existe des marqueurs de surface sur les globules rouges, A, B, Rh, qui constituent les groupes sanguins, ces anticorps doivent reconnaître des marqueurs leucocytaires. Il fallait les démontrer. Il va avoir une idée formidable, très astucieuse, c'est de transfuser avec les mêmes seuls donneurs plusieurs malades, avec un seul et même donneur. Et ensuite, va récupérer ce sérum, il va les tester sur son panel des donneurs volontaires. Par avant, il avait séparé les globules rouges des globules blancs pour bien montrer que c'était les globules blancs qui entraînaient les anticorps chez les malades transfusés. Et alors là, grande surprise, il voit que 50% des individus des donneurs normaux réagissent avec les sérums, dont l'antisérum provenant de ces malades.
Il avait donc prouvé ce qu'il pensait ?
Exactement. Mm-hmm. Il prouve ce qu'il pense. Il va appeler ce système MAC, M-A-C, ce n'est pas encore HLA, MAC parce que ce sont les trois initiales,
les trois donneurs
qui ne réagissaient pas. Et là, il fait sa publication Princeps en 1958, dans Acta Hematologica, dans un review français, dont déjà Chandossé souligne l'importance possible de ces groupes en transplantation. Donc ce n'est pas seulement la mise en évidence d'un groupe tissulaire, mais en plus, c'était l'application.
Jusqu'à présent, les transplantations étaient à chaque fois un échec ?
Oui, un allogénique, c'était tout, justement, ce n'était pas un succès.
On n'arrivait pas à savoir pourquoi. Et là, Jean Dossé apportait
voilà,
une possible réponse.
C'est-à-dire que ce n'était pas un succès, d'abord parce qu'on ne savait pas pourquoi, et les simulations suppresseurs n'existaient pas non plus. Donc, la survie du greffon, elle était très faible. Il y avait un rejet qui s'instaurait.
Et là, pardon de vous couper, professeur Carosella, mais il y avait Jean Dosset qui travaillait sur ces systèmes qu'on n'appelle pas encore HLA, qui s'appelle donc Mac. Mais parallèlement, il y avait d'autres équipes qui travaillaient
alors,
aussi
c'est ensuite, sur ce... Alors, c'est pas parallèlement, c'est ensuite. Suite à cette publication, il y a deux équipes importantes, c'est de Van Roth aux Pays-Bas et Rosa Pintz aux États-Unis, par des techniques différentes, des leucocytotoxicité et des leucoagglutinations, vont démontrer, confirmer les résultats qu'il avait obtenus, Monsieur Jean Dosset. Mais en réalité, Jean Dosset fut le premier à réaliser qu'il s'agissait d'un système génétique complexe, analogue au système H2 de la souris. Malgré une différence importante, car ces systèmes H2, les antigènes sont portés sur le globule rouge, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Et alors, Jean Dosset, il avait fait une étude assez très importante, ce qui a permis d'affirmer l'existence d'au moins 8 groupes qui devaient appartenir à un système unique. Et son conseil du professeur Georges Snell, qui a reçu le prix Nobel avec lui, et par la similitude avec les systèmes de la souris H2, Mac va changer de nom et va s'appeler HU1 pour Human One. Mais toujours, il fallait prouver que comme ces systèmes H2, les systèmes HU, on va chercher là après, déterminaient les devenirs de greffes. Alors ça, c'était un peu plus compliqué, parce qu'autant j'ai la souris, vous faites la greffe des peaux, entre frères, sœurs, etc., chez l'homme, il n'était pas possible.
Alors j'ai cru comprendre qu'ils ont pu faire des tests.
Voilà. Alors, c'est là où il va y avoir encore les donneurs volontaires des mécétocés, les familles qui donnaient du sang, mais de la peau aussi. Et je me rappelle que j'étais accompagné une infirmière, on allait à 7h30 du matin pour élever les familles dans son domicile. Alors c'était très sympathique. Il y avait des familles, 5 enfants, 6 enfants, ils nous recevaient, on prélevait du sang et ensuite on prenait tous les petits déjeuners. Et on rentrait à l'hôpital avec du sang. Alors il fallait tout de même faire des greffes. Et là il trouve des familles volontaires et il va transformer, littéralement, son bureau en salle blanche, un chirurgien américain, Félix Rapaport, qui est immunologiste, qui avait mis au point une technique très précise des greffes de peau, se rendre à Paris et ils vont faire les greffes de peau entre frères et sœurs et sur M. Dosset. Si vous voyez les bras, l'antébras de M. Dosset, c'est un léopard. Toutes les cicatrices qu'il y avait, dès les greffes non relatées, qui faisait sous son propre bras à partir des autres donneurs.
Quelque chose qui n'existerait plus aujourd'hui.
Qui n'existerait plus, qu'on ne pourrait pas les faire. C'est mm-hmm. Le comité aurait voilà. Permis de les faire.
Le comité consultatif national d'éthique n'aurait peut-être pas forcément...
Non, et c'était impossible, n'est-ce pas? Et alors, il montra qu'il y avait une corrélation entre la compatibilité du système HU1 et la survie des greffes de peau. Ainsi, les groupes leucocytaires étaient en réalité des groupes tissulaires, ouvrant la voie à une nouvelle aventure thérapeutique.
Et alors, donc, en avançant sur ces systèmes HLA, d'ailleurs, à partir de quel moment on parle de système HLA?
Alors, ça vient un tout petit peu plus tard. Le système, comme je vous disais, il est très complexe, très très complexe, dont la technologie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il était moins précise. C'était des anticorps polyclonaux. Il n'avait pas des anticorps monoclonaux. Donc, il fallait bien décortiquer. Il fallait standardiser les antisérums. Il fallait standardiser les techniques. Et il fallait standardiser les protocoles. Dans le monde entier. Il fallait donc se réunir dans ce qu'on appelait les workshops, que ça continue aujourd'hui, tous les 300 ou 4 ans. Tous les laboratoires du monde, travaillant en HLA, on échangeait les antisérums, les cellules et la technologie. C'était un travail, avant ces workshops, je me rappelle, c'était un travail, excusez-moi le mot, mais dingue, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur, donc on avait une grande feuille au milieu du laboratoire, à petits carreaux, et tous les matins, on venait et on mettait des croix, des signes positifs ou négatifs, et on interprétait avec des petits dessins qu'on faisait à la main. On n'avait pas d'ordinateur qui pouvait faire ce type de... Donc vous imaginez les travaux et les années qu'il a fallu pour pouvoir décrire ce système, que parfois, on n'était pas si net que ça, parce qu'il y avait des réactions croisées, etc. Et malgré ça, les systèmes a été décortiqué. Alors, c'est dans un de ces workshops qu'il va être réconsidéré les mots HU et remplacé par HLA, que c'est Human Leukocyte Antigen. L'histoire d'HLA.
Edgardo Carosella marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler de ces systèmes HLA qui peuvent, dans certains cas, prédisposer les patients, enfin, personnes, à certaines maladies. À tout de suite.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, sciences, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Suite de notre émission en habit vert en compagnie d'Edgardo Carosella avec qui nous parlons de la carrière passionnante de Jean Dausset. Jean Dausset qui nous a quittés en 2009. Nous en étions au système HLA et juste avant la pause, je voulais vous faire parler donc de ces systèmes HLA qui dans certains cas prédisposent des personnes à certaines maladies. Là aussi, c'est une intuition de Jean Dausset.
Absolument. Je dirais qu'il y a très peu découvert qui ont donné autant de conséquences. La description détaillée du système HLA, ces découvertes, a eu des conséquences considérables. Je dirais, pour le schématiser, il y a eu 4 conséquences. La première, vous savez qu'HLA, je viens de le dire, a un polymorphisme très important. Les nombres de combinaisons est 3 fois supérieur, pratiquement 3 fois supérieur, au nombre d'habitants qu'il y a sur la Terre. Ce qui l'a permis de dire à M. Dausset que chaque individu est unique. Bien entendu, les philosophes peut-être le savaient déjà, mais il fallait le démontrer. Que non seulement génétiquement, mais phénotypiquement, par l'expression de ces gènes, ces protéines, l'homme est unique. Donc, la première, je dirais, c'est une conclusion anthropologique. La deuxième, c'est bien évidemment la biologie fondamentale. La découverte du système HLA a permis de comprendre l'un des mécanismes essentiels de la défense immunitaire, c'est-à-dire la reconnaissance du soi et de non-soi grâce à la présentation par la molécule HLA des peptides étrangères. Toute la partie essentielle de la défense immunitaire d'origine cellulaire a pu être décryptée alors que jusqu'alors, c'était pratiquement seul le volet humoral de la défense de l'organisme qui était étudié. Ça bouleverse complètement l'immunologie. À partir de 1980, c'est cette interaction entre la molécule HLA, la présentation du peptide, et le récepteur T, ce récepteur qui se trouve sous les lymphocytes T, qui, je dirais, c'est les chefs d'orchestre du système immunitaire. Donc, c'est un bouleversement très importante. Enfin, la troisième, c'est dont vous faites allusion, c'est la démonstration que de très nombreuses affections étaient associées à tel ou à tel autre allèle du système HLA. Sur les plans pratiques, il devenait donc possible de dépister dans une famille ou dans une population générale les individus susceptibles à développer une certaine maladie, s'ils possédaient l'allèle correspondante. C'est que M. Dausset va donner les noms des médecines prédictives. Et il va continuer sur ces bases-là, parce qu'après son prix Nobel, c'est sur ces bases-là qu'il va fonder les centres de polymorphisme humain et qui va faire, je dirais, le leitmotiv du CEF. Et enfin, la quatrième révolution, c'est évidemment sur les plans thérapeutiques, c'est la conséquence la plus évidente dont nous avons déjà parlé, c'est la transplantation d'organes et la greffe des moelles osseuses. Pendant des années, la compatibilité à échelle en transplantation d'organes a été, et ça continue à être, le meilleur garant du succès de greffe. Donc, quatre révolutions d'une importance capitale.
Et vous, Edgardo Carosella, vous avez travaillé sur les HLA-G. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, bon, d'abord, avec M. Dosset, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les antigènes classe 2. Hein, la HLA, il y a les antigènes classe 1, classe 2. Les classes 2, c'est ce qui gère l'immunité cellulaire, la réponse allogénique surtout. Et nous avions travaillé à l'époque, on a été des pionniers même, sur les cellules cytotoxiques, mais sur les cellules suppressives. À cette époque-là, on n'entendait pas beaucoup parler, ou presque pas, des cellules suppressives, sauf en même temps Rich qui les décrivait chez la souris. On était pratiquement les premières à les démontrer chez l'homme. Et ensuite, une question qu'on s'est posée régulièrement avec M. Dosset, et certainement d'autres se l'est posée aussi, pourquoi la mère ne rejette pas son enfant? Il faut savoir que les cellules placentaires ne présentent pas des antigènes classants, ne représentent pas des antigènes HLA, tout simple. Alors avec Jean Dosset, ils ne présentent pas des antigènes HLA. Les cellules naturelles killers, c'est ce type de ces sous-populations des cellules cytotoxiques qui attaquent immédiatement une cellule quand ils n'expriment pas HLA. Alors on s'est demandé, ben alors pourquoi
ne le rejette pas?
Pourquoi ne le rejette pas? Puisque au moment de l'implantation de l'ovule fécondé par les spermatozoïdes, l'endomètre maternel, dont la décidoelle utérine, il est infiltré des cellules naturelles killers. Et cet ovule fécondé, il n'exprime absolument pas les antigènes de classe 1, moins encore de classe 2. Et ça continue. C'est en 91 que j'ai eu la chance de pouvoir décrire pour première fois la molécule HLA-G et leur fonction immunologique. C'était cette molécule, je pourrais vous dire, on l'appelait HLA-G. J'ai comme gestation pour embellir cette présentation, mais n'a rien à voir, c'est parce qu'il vient après A, B, C, D, F. Mais ça tombe juste, G s'exprimait seulement sur les cellules fœtales placentaires. Il ne s'exprime pas dans les autres cellules de l'organisme, à l'exception du thymus. Chose que la différencie énormément des autres antigènes de classe 1 qui s'exprime de façon ubiquitaire dans toutes les cellules de l'organisme, et HLA-G ne s'exprime dans des conditions physiologiques que sur les placentas. Elle bloque toute la réponse allogénique, et voire même inhibe la différenciation des lymphocytes B, dont agit aussi à niveau humoral. Et nous sommes les premières équipes à décrire et démontrer pourquoi la mère tolère son enfant. Vous savez, il était très proche de moi quand nous avons fait cette découverte, car c'était les années 91, dont il était très assidu du centre polymorphisme humain, et il venait, le centre polymorphisme humain se trouve à l'hôpital Saint-Louis, donc il venait à midi, et lui comme moi, on avait l'habitude de ne pas déjeuner. Certainement, c'est lui qui m'a contagié, car, vous savez, M. Dosset, il me convoquait dans son bureau toujours vers une heure et demie. Au moment qu'il mangeait simplement, ou il déjeunait plutôt, une pomme que les techniciens faisaient brumir à l'autoclave, un morceau de fromage et un thé. C'était tout, sur une petite table ronde de base. J'ai les présenté mes résultats et on discutait. Et en 91, la tradition continuait, je ne déjeunais pas. J'ai mangé qu'un yogourt et une banane, chose que j'ai continué à faire, et avec un café. Et lui, il venait. Donc, c'était une banane pour deux, enfin deux bananes plutôt, deux yogourts. Et à ce moment-là, on discutait et il était passionné. Il y avait quelque chose d'extraordinaire chez M. Dossé, c'était la capacité d'étonnement. Ses yeux bleus, c'était formidable de les voir, comment ils s'étonnaient. Et ça m'avait impressionné dès les premiers jours, parce que vous imaginez un patron comme lui s'étonner d'un résultat d'un jeune de 26 ans. Et il cherchait, on voyait immédiatement qu'il cherchait, et s'étonnait, et repartait sur peut-être ce qu'on n'avait pas fait trop attention. De toute évidence, il ne fallait pas les dire, cette expérience n'avait pas marché. Alors ça, c'était nous qu'on n'avait pas marché, certainement pas l'expérience. Mais il fallait rebondir toujours sur ces résultats qu'on négligeait, on croyait qu'ils n'avaient pas marché. Je crois que l'expression de Claude Bernard, il n'y a pas des idées terminées, mais des hommes terminés sur ces idées. Il pouvait s'appliquer parfaitement à Jean Dossé que rebondissait immédiatement sur cela. Et quand on les présentait un résultat, tout ça c'était très bien, mais il allait rebondir sur quelque chose qu'on croyait qu'elle ne peut pas marcher ou qu'on n'attirait pas trop l'attention. Et ça continuait jusqu'à quelques semaines avant son décès que j'ai une longue présentation scientifique à faire.
Oui, donc pour parler justement de Jean Dossé et de son travail, finalement, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à la retraite.
Non, c'est-à-dire que il avait quitté les CEF, je crois que il y a cinq ans peut-être qu'il avait quitté les CEF. Il est parti en Espagne depuis 2 ans, mais je l'avais régulièrement au téléphone et j'ai voyagé en Espagne. Et 3 semaines avant son décès, il m'avait demandé, il voulait discuter avec moi un certain nombre de résultats sur HLHG, il m'avait demandé de lui faire une présentation. Donc j'avais une présentation que j'avais faite à Bruxelles, que c'était 1h30. Et tous les 20 minutes, je disais, vous voulez qu'on arrête, monsieur ? Je dis, absolument pas. Et il suivait parfaitement cette présentation avec des questions très pertinentes. Il savait bien me mettre en difficulté quand il les souhaitait, même si je travaillais 35 ans avec lui.
Parlons quand même de son prix Nobel. Il reçoit un prix Nobel de médecine en 1980. À ce moment-là, quand il reçoit la nouvelle, il est à l'hôpital Saint-Louis.
Et il n'est pas à l'hôpital Saint-Louis, on croyait tous, il était à l'hôpital Saint-Louis, mais il n'était pas dans son bureau. Alors, on croyait tous, il nous avait dit, son assistante, Madame Toublik, Monsieur Dossé part au Canada, il sera au Canada. Donc nous, on les croyait au Canada, on ne les croyait pas à Paris. Donc il reçoit la nouvelle chez lui, et immédiatement, il se rend dans les services. Laurent Degos, qu'il est membre correspondant à notre académie, et pour qui M. Dossé il avait une grande estime, et par ailleurs, c'est un condisciple que j'apprécie beaucoup, on est des vieilles amies. Il avait préparé, parce qu'on s'imaginait, n'est-ce pas, la date du prix Nobel, c'est toujours le 21 octobre, je crois, l'annonce du prix Nobel, et il avait mis dans les coffres de sa voiture des bouteilles de champagne. Alors, quand M. Dossé reçoit la nouvelle de son prix Nobel, il se rend immédiatement à l'hôpital Saint-Louis. Il arrive, je crois que c'était 3h ou 4h de l'après-midi. On était tous dans son bureau. Je peux vous dire que c'était très émouvant quand son assistant annonce par les micros que les patrons étaient prix Nobel. Et les premiers gestes de Jean Dossé, c'était nous applaudir. Nous l'applaudissons, mais c'était lui qui nous applaudit et dit « C'est grâce à vous, yo d'honneur, que j'ai ces prix. » C'était les premiers mots, les d'honneur et vous, et nous applaudissait. Et ça restait gravé dans notre mémoire. C'était un groupe, une famille très unie, la famille Dossé.
Avec beaucoup d'humilité de la part de Jean Dossé.
Avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Il était argenté, gai. C'était un homme très gai, vous savez. C'était un homme très gai. Il était timide et pudique. C'est pour ça que parfois, on peut se demander si c'était un homme qui aimait rire. Je vous citerai une phrase qu'il avait l'habitude de sortir, c'est une phrase de Shakespeare. Il nous disait, et surtout de ces dernières années, que les rides de l'âge vous viennent à force des gaietés et des rêves. Et il l'a appliqué dans sa vie et il nous a appris à l'appliquer dans la nôtre. Et peut-être c'est pour cela que bien des contrariétés, nous sommes toujours et nous suivons toujours son exemple de gaieté et des rêves. Il nous a appris à rêver.
Professeur Edgardo Carosella, on marque une deuxième pause et dans la suite de notre émission, nous parlerons du CEF. Vous en avez beaucoup parlé. Donc je redonne le titre CEF, Centre d'études du polymorphisme humain, qui est donc la fondation de Jean Dausset qui a été créée après le prix Nobel. Nous allons en parler et nous parlerons aussi de la fameuse galerie Rue du Dragon. A tout de suite.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Suite de notre émission En habit vert, toujours en compagnie d'Edgardo Carosella pour parler de Jean Dausset. Nous en étions au CEF, Centre d'études du polymorphisme humain, qui se crée dans des conditions assez originales. Suite au prix Nobel, je vous laisse raconter l'histoire.
C'est-à-dire que, tout d'abord, les CEF, c'est quelque chose, c'est une fondation et un centre très important. Il est autant cité que l'Institut Pasteur. Alors, ces polymorphismes qui introduit Achela dans la médecine prédictive, Messier Dausset veut aller plus loin et être plus exact sur ces médecines prédictives, dont essayer de montrer, d'écrire les gènes qui sont associés à tel ou tel autre type de maladie. Et c'est ainsi que l'ESF va jeter les bases du décryptage du génome humain. C'est le premier qui va établir sa carte physique, les séquençages du génome humain, et c'est à partir du CEF qui va se créer les génétons, qui donnent autant aujourd'hui, avec Barato et Daniel Cohen. Les groupes, les équipes de CEF vont ensuite se regrouper dans les génopoles, dont l'ESF, c'est un centre très important. Alors, l'histoire, elle est formidable. Vous savez que M. Dausset, je vous raconterai tout à l'heure, il avait une galerie d'art. Et dans ces galeries d'art, il avait une cliente qui venait régulièrement acheter ses tableaux. C'était Madame Hélène Anavy. Au moment que M. Dausset, que son prix Nobel est annoncé à la télévision, Madame Anavy voit Monsieur Dausset et dit « Mais c'est lui qui m'avait vendu les tableaux. » Alors, il s'adresse à Monsieur Dausset en lui demandant un rendez-vous pour le rencontrer. Et à ce moment-là, il explique qu'elle souhaiterait léguer sa fortune à la recherche. Madame Hélène Anavy était malade et va décéder que 2 ans plus tard, les legs des tableaux et autres biens à M. Dausset, qui avec cet argent va construire les centres polymorphisme humain qui existe toujours et que c'est un grand centre.
Et là, voit que la boucle est bouclée puisque justement, on va pouvoir parler de cette galerie. Cette galerie s'est ouverte à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand il revient en France.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est en 1945... Évidemment, après M. Dausset, avec sa première épouse, Nina, vont essayer de. Et vont louer, pas essayer, vont louer une ancienne épicerie allemande qui s'appelait Hauser, et qui se trouvait dans rue des Dragons. Alors, ils vont transformer cette épicerie d'abord en librairie. Il va acheter et vendre des anciens livres. Vous savez, après la guerre, les quartiers de Saint-Germain-des-Prés, c'était un bouillon de culture. Probablement, suite au temps des années d'asphyxie, les talents éclataient en feu d'artifice. Mais peu à peu, cette librairie où les livres vont être remplacés par des tableaux. Et ça va devenir une galerie d'art, d'exposition, et d'exposition surtout des peintres surréalistes. Alors, il devient un lieu d'exposition permanente sur les noms des solutions surréalistes. Il va partir, comme je vous ai dit, par le plan Marshall aux États-Unis.
Et c'est André Breton qui le remplace.
Alors, c'est Madame Poudéreau.
Ah, pardon.
Non, qui était très amie de Madame. André Breton était très amie de Madame Poudéreau, bien entendu. Mais c'est Madame Poudéreau qui prend la direction. Madame Poudéreau, c'était Manu Poudéreau, une artiste surréaliste, un peintre surréaliste remarquable. Il y a des tableaux formidables de Madame Poudéreau. Alors, elle va continuer cette initiative. Et nous en retournons, Monsieur Dosset, la galerie prend de plus en plus ampleur. Et en 1949, ils vont faire, par exemple, la première exposition de Jean-Paul Riopel, le Canadien, c'est connu, qui va avoir une certaine amitié avec Monsieur Dosset. Il venait les voir régulièrement à la galerie. Yves Tanguy, ou encore Jean Dubuffet, ou Victor Brunner. Alors, de ces surréalismes, peu à peu, il va passer au lyrisme. Alors, la peinture lyrique, c'était un mélange de peintures figuratives et abstraites. Et alors là, il va exposer, par exemple, Wolfgang Wolff, dont il était son médecin. Et Wolfgang Wolff, il va pratiquement mourir dans ses bras. Et là, j'ouvre en parenthèse, car les récits des Jean Dosset, si on lit les récits des Jean Dosset
dans Clin d'œil à la vie.
De la vie, sur les crépuscules et la mort de Wolff, c'est très émouvant et donne la preuve de sa capacité d'étonnement. Ce petit récit, il est magnifique, il donne la preuve de l'étonnement de Monsieur Dosset. Alors, évidemment que sa galerie devient un autre lieu d'abstraction. Mais, je dirais, vous savez, alors, ça pareil, quelque chose très distante, n'est-ce pas? Messier Dosset, transfusaire, et en même temps, galerie d'art. Mais je dirais que l'imagination scientifique des Jean Dosset était comparable à l'imagination de ses amis les peintres. Comme eux, il fuit les conformismes et les conformistes de l'anticonformisme. C'était un homme qui il réussit à faire prévaloir l'esprit et nous a toujours encouragés à avancer à contre-courant, quels que soient les paramètres scientifiques ou l'insuffisance de nos ressources face aux défis à relever. Et c'était un peu ce que les peintres, peut-être, les apprenaient. Je me rappelle un commentaire de M. Dosset sur Riopel qui venait les voir régulièrement à la galerie et qui vivait, donc il est venu à Paris, vivait dans une chambre de bonne avec son épouse et ses deux enfants. Et il me disait qu'est-ce qu'il fallait avoir comme courage et conviction pour continuer. Et je pense, et ce courage et conviction, lui l'avait aussi. Donc il y avait plein de choses en commun avec ses amis peintres, et qu'elle nous a transmis davantage à nous, ses élèves.
Qu'est-ce que vous retiendrez de Jean Dosset sur le plan peut-être, peut-être moins professionnel qu'amical, sur le plan amical peut-être?
Je dirais, il y a d'une part, c'est très personnel, mais c'est la tendresse, son pudeur et sa timidité, mais elle était toujours très proche. Il était très proche. C'était pas un homme qui était très expansif dans ses sentiments. Ce n'était pas un latin qui venait vous embrasser. Comment ça va? Mais tout était dit avec des petites phrases que vous touchez. Jean Dosset, il était les parents. Enfin, j'ai dit les parents parce que en espagnol, c'est les parents. Il était les témoins de mon mariage religieux. Et je me rappelle. Quand on a terminé la cérémonie et le déjeuner, il s'est adressé à moi en disant « Et voilà, maintenant je suis content, vous faites un bon commencement dans la vie. Et il ne fallait pas ajouter de plus. Et c'était ça, Jean Dosset, c'était les petits mots, mais très fort, et sa présence constante. Son optimisme, bien entendu, était un homme optimiste, toujours, et positif, et solidaire. Je dirais, c'était un homme de conviction et engagement. Et l'un n'allait pas sans l'autre avec lui. Chose difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont de conviction sans engagement, et vice-versa. Lui, c'était les convictions et l'engagement, ils allaient de pair, et c'était solide, une amitié.
Pour juste terminer cette émission, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore abordées et que peut-être nous aborderons au cours d'une prochaine émission. C'est notamment son rôle dans la réforme des hôpitaux avec Robert Debré et Jean Bernard. Voilà, on n'a pas abordé, il aurait fallu l'aborder. Et puis aussi tout son l'aspect humaniste qu'on n'a pas abordé, qu'on peut peut-être aborder en quelques minutes.
Je dirais que c'était un homme qui, à part de la science et l'art, il s'intéressait à toutes ces qui touchaient de près ou de loin l'homme en tant qu'humanisme. Et dans un des lettres qu'on avait échangées, j'ai apporté la phrase parce qu'il m'avait beaucoup frappé. Il me disait « Il existe dans la promotion de la science une raison d'ordre supérieur, libérer l'homme de toute souffrance. Une fois libéré, il pourra, en pleine lucidité, avancer vers un nouveau chaînon de l'évolution, fondé sur une éthique de solidarité et de respect d'autrui. » Et je crois que la synthèse de sa pensée imprègne toute sa trajectoire.
Merci, professeur Edgardo Carosella.
Merci à vous.
Je l'espère à une prochaine fois pour une prochaine émission, peut-être pour aborder d'autres choses sur la vie et la carrière du professeur Jean Dosset. Je précise à nos auditeurs que sur le site Canal U, on trouve un documentaire consacré à Jean Dosset qui reprend des images d'archives, un reportage qui est donc libre d'accès. Et puis également sur le site du Canal Académie cette fois-ci, une émission consacrée à vous, Edgardo Carosella, un avis vert qu'on a pu réaliser ensemble pour parler de vos travaux aussi, de vos recherches.
Et que je vous remercie beaucoup.
Merci et puis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.